Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Le Goût d'entreprendre. Nous vous emmenons en voyage. Fun & Fly est un TO, tour opérateur spécialisé dans les sports de glisse nautique. Une entreprise toulousaine avec à sa tête Laetitia Garrigue. Son histoire entrepreneuriale est passionnante. D'abord salariée, elle a racheté son entreprise et s'est associée avec une professionnelle des sports nautiques. Windsurf, paddle, kitesurf, Fun & Fly est aujourd'hui leader en Europe sur le marché des sports de glisse. L'entreprise est née à Toulouse avec de fortes attaches, et on comprend pourquoi, à Gruissant. Sa directrice générale est passée du statut de conseillère voyage à celui de créatrice d'entreprise. Bonjour Laetitia Garrigue.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Alors on ne peut que vous féliciter dans un premier temps pour cette belle ascension. Comment a commencé votre aventure ? Aventure dans l'entreprise, dans le monde du voyage, on
dans
va dire.
Dans le milieu du voyage, j'ai fait un BTS tourisme parce que convaincue dès le plus jeune âge que c'était vers le tourisme que je voulais travailler. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer un directeur de magasin de vente de matériel de planche à voile à l'époque, qui voulait créer une agence de voyage spécialisée. Et donc, bien que j'ai fait mes premières armes chez Fram sur un tourisme plutôt de masse, j'avais quelques doutes pour basculer sur cet univers, mais mon mari pratiquant m'a convaincue qu'il fallait que je franchisse le pas, et c'est comme ça que l'agence est née, avec deux initiateurs à la base qui ne pratiquaient pas forcément les activités ni l'un ni l'autre, mais connaissant cette pratique par personnes interposées, on s'est lancé quand même dans l'aventure.
Alors donc vous étiez au départ conseillère voyage, et vous êtes passée ensuite créatrice d'entreprise. Ça s'est fait de quelle
créatrice,
façon
créatrice, on va dire dirigeante d'entreprise. Ouais. Parce que je ne suis pas quand même à l'origine de cette fabuleuse idée. Effectivement, j'ai eu la chance de participer à la création de la société en tant que conseillère voyage. Donc j'y ai apporté mes compétences techniques et puis le diplôme que j'avais, puisque c'est un métier qui est réglementé et qui nécessite certains sésames, on va dire, financiers que techniques. Et puis l'entreprise ayant grossi, j'ai évolué avec l'entreprise en prenant la direction commerciale, puis finalement la direction générale, en ayant été racheté par un fonds d'investissement, et donc depuis 2 ans, en l'ayant racheté moi-même à ce fonds d'investissement pour voler de mes propres ailes.
Mais c'est une belle réussite. Sur un plan personnel, vous êtes heureuse.
Oui, très épanouissant, effectivement.
On le voit, Laetitia. Alors, Fun & Fly, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous vendez ?
Donc, la marque Fun & Fly est née à la base parce qu'on voulait se positionner sur le marché de la planche à voile. Et il y a plus de 20 ans, ça s'appelait du Fun Board. Et Fly, le terme en anglais signifie voler, donc ça sonnait bien. Et donc, on s'est positionné tout à fait au départ sur des voyages à thématique Fun Board, qu'on appelle plutôt maintenant windsurf. Et puis au fur et à mesure de l'évolution de la société, on a dupliqué ce métier à d'autres activités nautiques qui sont venues se renforcer avec l'apparition du kitesurf dans les années 2000.
Ouais, ouais.
Et puis maintenant, on est en plein développement autour de produits paddle.
Ouais.
C'est du stand-up paddle, une planche sur laquelle on évolue en étant debout et en ramant.
Alors oui, voilà, c'est ça. Alors ramer, oui, mais ramer en eau trouble, en eau douce.
Alors pour cette activité récente là, le paddle, ça se fait un peu sur tous les plans d'eau,
ouais.
Que ça soit en mer, sur lac, sur rivière, toutes les possibilités sont permises.
Ça c'est une grande tendance.
C'est une grande tendance, et ça a l'avantage de toucher un marché beaucoup plus vaste que le marché du windsurf ou du kite, qui sont un petit peu plus élitistes.
Voilà, mais, c'est plus familial. On
exactement.
Va dire. Ouais, ça s'adresse soit à tout type de pratiquants sportifs
ou pas.
Alors vous n'êtes pas une plateforme ou simplement un site internet qui vend du voyage ?
Absolument pas. Dans la mesure où on est né de toute façon avant l'arrivée d'internet,
oui. On
a une vraie équipe d'experts qui renseignent nos clients par téléphone et par mail, bien entendu, mais on privilégie avant tout le contact humain et la relation directe, avec des conseils sur mesure pour établir des offres qui sont complètement à la carte, loin des forfaits très standardisés qu'on peut trouver sur le marché. C'est comme ça qu'on se démarque et qu'on modélise nos offres par rapport aux volontés des consommateurs.
Et ça, vous vous apercevez que les clients sont en recherche de ce type de relation, de contact ?
Ça dépend des profils, mais en tout cas, pour vraiment faire passer notre valeur ajoutée, c'est par le contact humain que ça se passe. Donc, effectivement, on a un site internet vitrine qui nous permet de collecter pas mal de contacts, ouais. Mais ensuite, on double systématiquement d'un appel téléphonique pour bien s'assurer que les critères qui ont été sélectionnés par l'internaute correspondent véritablement à ses attentes profondes.
Et ça, c'est le message que vous faites passer aussi à vos collaborateurs?
Oui, complètement. Je suis très, très attachée à l'humain. Et c'est vrai qu'on est une TPE, on est 11 collaborateurs. Mm-hmm. Mais ma plus grande fierté aussi, c'est que j'en ai la chair de poule. C'est qu'ils aient en moyenne 13 ou 14 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Donc, ça prouve que, quelque part, ils sont non seulement passionnés par leur métier, mais je pense aussi attachés à l'entreprise.
Il y a beaucoup d'échanges entre vous?
Oui, on se réunit très régulièrement, bien entendu, d'autant plus que on est sur des sites géographiques distants. On a 4 collaborateurs en télétravail sur Marseille et Montpellier, mais on se réunit à peu près tous les 2 mois à travers un petit séminaire où évidemment on développe en parallèle des questions professionnelles tout l'aspect convivialité qui est nécessaire.
Vous êtes quel type de manager si on vous posait la question?
Je pense ultra ouverte aux échanges, incitant les gens à prendre des responsabilités tout en étant exigeante sur la qualité de service et l'amour du client.
Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui dans le voyage, Laetitia?
Qu'est-ce qui
fonctionne? Alors, on a vu apparaître il y a quelques années des dizaines et des dizaines d'offres sur le net. Mmh. Ça existe toujours.
Oui.
Mais on voit réapparaître de nouveaux concept stores d'agences physiques.
Mmh. Oui, là, c'est effectivement la volonté d'être un petit peu cross-canal et multicanal, comme certains le disent, à savoir avoir une vitrine virtuelle, mais aussi le doublé d'une vitrine physique.
Ouais, d'un contact.
Voilà. Mmh. Nous, on est, enfin, de tout temps, on a plutôt vécu caché dans des bureaux à l'étage, sans avoir pignon sur rue, mais nécessité par, on n'a pas besoin d'être implanté partout en France, dans la mesure où on est sur un secteur extrêmement de niche. Donc, le fait d'être en contact direct avec nos clients, ça se matérialise via le téléphone, pas forcément par des implantations physiques, à l'exception, et c'est ce qu'on commence à faire tout doucement, un peu trop doucement encore à mon goût, en s'implantant dans des clubs sur les lieux de pratique pour effectivement là pouvoir côtoyer nos pratiquants plus régulièrement.
Alors vous en parlez justement, c'est un axe de développement pour votre entreprise, c'est-à-dire que vous allez implanter vos bureaux. Alors tout à l'heure on parlait de Gruissan, où vous avez des attaches fortes, vous avez un spot là-bas.
On a un centre effectivement qu'on a pris en gérance depuis 3 ans et pour une longue durée. Notre objectif c'est effectivement de reprendre la maîtrise des clubs de pratique, des clubs de glisse ou de voile, de manière à effectivement maîtriser l'offre et notamment sur des destinations de proximité avec tous les événements géopolitiques de par le monde, mais aussi avoir une offre de court séjour. Jusqu'ici, on est né par l'offre de séjour de minimum 7 nuits à l'étranger. Et là, on se dit que c'est vraiment sur une complémentarité avec ces destinations de proximité qu'on peut aussi évoluer. Et cette opportunité sur des courts séjours, etc., nous permet du coup de fréquenter nos clients plus régulièrement qu'à l'occasion d'un ou deux voyages par an. Et c'est sur ces clubs-là que l'on pense effectivement créer à nouveau du lien, pas forcément en ayant des bureaux sur chaque spot, mais au moins une manière de se rappeler au bon souvenir des pratiquants, moyennant une PLV, des vidéos, des choses comme ça.
D'accord, vous faites partir vos clients dans le monde entier.
Tout à fait, on est sur une cinquantaine de spots, comme on dit.
De spots. Quelles sont les destinations qui fonctionnent le mieux?
Alors, les grandes tendances du moment, c'est des destinations un peu hors des sentiers battus, qui vont peut-être pas parler encore à tout le monde, mais telles que Darla, tout à fait au sud du Maroc, en limite Mauritanie. C'est une destination qui a vraiment le vent en poupe.
Il y a du vent, c'est le cas de le dire.
Oui, tout à fait. Et puis, on a du Zanzibar, c'est le Sri Lanka aussi qui décolle pas mal depuis l'année dernière.
On pourrait parler du secteur du tourisme qui a été mis à mal ces derniers mois. Comment est-ce qu'on pourrait, d'après vous, relancer la machine en France?
Alors, sur le territoire national, c'est vrai que ils bénéficient d'une grosse opportunité dans la mesure où les gens sont assez hésitants à partir à l'étranger par rapport aux problématiques géopolitiques ou des choses un peu moins attendues telles que les élections de Trump aux États-Unis où j'ai cru comprendre que certains justement
attendaient
refusaient
le résultat,
effectivement
de
se rendre aux États-Unis. La France effectivement a de beaux atouts. Je pense qu'après elle s'est malheureusement pas encore assez les valoriser et les réglementations en tout cas sur notre activité pour pouvoir implanter des centres dignes de ce nom en termes de qualité d'accueil et d'infrastructures sont un petit peu compliquées pour occuper le terrain sur les littoraux français.
Ah oui, il y a du travail à faire à ce niveau-là. Qu'est-ce qui bloque ?
Toute la réglementation incroyable et puis également les pressions écologistes qui font qu'effectivement il y a des volontés de protéger certains sites.
Que l'on peut comprendre.
On peut comprendre complètement, mais ensuite effectivement je pense que ça nécessite quelques concertations pour essayer d'avancer tous dans le même sens. Avec cette volonté, bien entendu, de préserver les territoires
et
les lieux de pratique,
bien sûr. Comment vous comptez développer votre activité dans les mois qui viennent ?
Les mois, on est déjà bien lancé parce qu'on a déjà commencé les réservations pour l'exercice 2017 et on est largement en avance par rapport à l'année dernière, donc très satisfaisant. Nos axes de développement, à proprement parler, vont plutôt reposer sur la diversification avec une véritable lancée de produits paddle. Donc, c'est un nouveau support qui existe depuis deux, trois ans. Et avec la création de séjours à thématique paddle. Jusqu'ici, c'était une activité qu'on faisait en complément ou quand il n'y avait pas de vent. Or maintenant, on veut vraiment lui donner ses lettres de noblesse et le considérer comme une activité à part entière. Donc ça va nécessiter de sortir des spots habituels, de trouver de nouveaux partenaires, etc. Mais on travaille dessus avec une offre plutôt week-end en France pour découvrir de nouveaux territoires. On a déjà lancé la découverte des calanques de Cassis qui ont connu un certain succès. Et on travaille sur l'élargissement du catalogue sur d'autres zones.
Vous pratiquez ?
Le paddle, un petit peu, oui. Mais je suis très frileuse malgré tout.
À tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et seconde partie de cette émission avec Laetitia Garrigue de Fun and Fly. Bonjour Jean-Marie Fehrenbach.
Bonjour.
Vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Et première question à notre invité.
Alors, vous avez une équipe de 11 personnes aujourd'hui. Je crois que ce serait intéressant pour nos auditeurs de sentir comment cette équipe s'est recrutée, comment elle vit, et qu'est-ce qui fait l'unité de votre équipe, quelles perspectives ont-ils avec vous et, je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de travailler ensemble?
Ouais. Déjà, je suis assez fière parce que c'est une équipe qui a une ancienneté très importante. Elle a plus de 10-12 ans d'ancienneté en moyenne. Ils sont tous passionnés par le métier qu'ils exercent. Certains sont issus du terrain, donc de la pratique. Ce sont d'anciens instructeurs qui ont ensuite décidé de se désédentariser et donc de vendre leur passion. D'autres sont issus, plus comme moi, du secteur du tourisme par leur formation et qui sont passionnés par l'univers du voyage. Et la combinaison de ces deux compétences fait que l'équipe est super complémentaire. Et en termes de perspective, c'est vrai que dans une TPE qui a été en plus là, restructurée, il faut le dire aussi, suite à la... Avant le rachat, j'ai dû restructurer l'entreprise parce que elle a au passage absorbé ses concurrents Sportway de Marseille. C'est vrai que j'espère effectivement leur permettre des perspectives, mais dans l'immédiat, c'est peut-être réaliste de dire que c'est pas toujours évident.
Vous parlez de passionné à du tourisme ou bien des sports de glisse. Et vous, que faites-vous comme sport?
La question piège. Alors, je suis ni Nathalie Simon, ni Jenna de René. Je me suis initiée aux activités, mais c'est vrai que je dois avouer que je n'en suis pas ressortie picousée, comme on dit, dans la mesure où je suis ultra frileuse. Par contre, je pense que je reste une personne super active. Je fais du vélo, de la marche à pied.
Mais sur l'eau ou dans l'eau
Mais voilà, sur l'eau, malheureusement, aux grandes dames de mes équipes, quand on se retrouve sur les spots, je ne les suis pas.
Jean-Marie, notre question.
Oui, alors vous êtes face à un réseau de partenaires assez considérable, parce que si vous avez 30 destinations, ça veut dire que vous avez des liens avec un certain nombre de clubs, avec des hôteliers, avec je sais pas, des restaurateurs, des transporteurs, etc. Finalement, ce réseau, comment se constitue-t-il et qu'est-ce qui fait que ce réseau tient et quelles sont, je dirais, les spécificités de vos relations de réseau? Parce que construire un réseau, ça ne doit pas être facile, pour qu'il soit fiable, que vous le connaissiez, etc.
Ça se fait au fil du temps.
Que c'est intéressant aussi pour nos auditeurs de sentir comment ça se marche.
Ça se fait au fil du temps. Après, l'univers de la glisse, c'est un tout petit milieu où tout le monde se connaît. Et comme je suis attachée à la relation humaine avec mes clients, je suis très attachée à la relation humaine avec mes partenaires. Par mon associé, la société allemande qui détient un réseau de clubs dans le monde, il y a des séminaires qui sont régulièrement organisés chaque année pour qu'on se retrouve et qu'on brainstorme sur justement comment améliorer en permanence l'accueil de nos clients. Mais c'est vrai que je m'efforce de passer parfois un petit coup de fil ou un Skype, même sans avoir un sujet particulier ou ou une problématique à évoquer. Voilà, ça fait, je pense, partie peut-être des valeurs de l'entreprise.
Oui, vous dites un réseau, ça s'entretient. De façon très directe,
Et sincère.
Et sincère.
Sur place, comment vous travaillez avec les gens qui vous viennent en support?
Via des accords de commercialisation, on va dire. Tantôt c'est nous qui les détectons sur des spots, tantôt c'est eux qui viennent à nous, qui ont décidé d'ouvrir un club à l'autre bout de la planète et qui nous interpellent en disant coucou, je suis sur telle île, est-ce que ça vous intéresserait de promouvoir mes services? Et du coup, avec ce prestataire-là, en général le club de glisse, on défriche le terrain autour, voir quelles sont les possibilités d'hébergement. Est-ce qu'elles sont compatibles avec notre cahier des charges? Quelles sont les dessertes aériennes? Et ensuite, on voit s'il y a un potentiel ou pas.
Si vous pouvez faire une offre, est-ce qu'on peut imaginer aussi de créer des sortes de gîtes ou chambres d'hôtes proximité de vos spots?
Oui, alors ça m'interpelle ce que vous me dites, parce que ça fait partie encore de mes doux rêves que je n'ai pas encore réussi à décliner, faute de temps. Mais c'est vrai que vous me parliez de partenaires dans pas mal de clubs, avec mon associé, la société Ion Club, qui détient une quinzaine de clubs dans le monde. C'est une société qui a aussi des valeurs humaines très très fortes, qui a réussi à intégrer des autochtones, des instructeurs, des jeunes locaux, qui les a initiés aux pratiques, puis qui leur a fait passer des diplômes pour devenir instructeurs. Donc ça, c'est déjà un step qui est réussi, parce que globalement, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je pense que dans ces clubs, il y a à peu près 80% du personnel qui est issu des destinations. Donc ça, c'est un joli challenge, ce qui fait que l'entreprise pilote une quarantaine ou une cinquantaine de nationalités, donc ça c'est super riche. Et le step supplémentaire par rapport à ce que vous venez de me dire, c'était de me dire peut-être qu'un jour j'arriverai à convaincre certains instructeurs d'aménager un coin de leur domicile ou pour accueillir une frange de ma clientèle qui serait intéressée pour découvrir les destinations autrement par un hébergement traditionnel de standing différent. Voilà.
Tout à fait. Donc ça, c'est en projet.
Je pense que ça va me prendre un peu de temps, mais oui, ça fait partie des projets.
Jean-Marie, une autre question.
Alors, dans votre domaine, là, si on regarde un peu l'aspect un peu qualité, est-ce que vous avez des risques significatifs? Est-ce que vous tombez quelquefois sur de grosses difficultés avec votre activité?
Malheureusement, le secteur du tourisme est un secteur qui est en permanence exposé à plein de risques. Les risques liés à la sécurité aérienne, c'est les risques géopolitiques, c'est les risques économiques, c'est les risques sanitaires, c'est les risques climatiques. pense que j'ai tout couvert. donc c'est vrai qu'on est en permanence oui, sur le qui-vive et on ne peut jamais se dire chouette, on s'est gagné.
On a fini. Voilà.
Oui, c'est donc pas un métier si tranquille alors qu'en fait vous êtes plutôt dans un bureau. Et...
Oui, 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 tout à fait. Et non, c'est pas si tranquille et c'est d'ailleurs là-dessus que j'essaye d'accentuer la partie service dans la mesure où on est face à des clients qui partent aux quatre coins du monde, qui peuvent rencontrer des difficultés plus ou moins importantes. On a mis en place depuis 3 ans maintenant une permanence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui permet de rassurer aussi les clients et d'intervenir pour un oui ou pour un non. Quoi.
Qui tient la permanence ?
Moi-même.
Donc vous répondez le dimanche à minuit, par
exemple.
Tout
à fait. Oui, oui,
si quelqu'un vous appelle en disant « j'ai rencontré un alligator, qu'est-ce que je fais ?»
ça, c'est une anecdote que je ne pourrais pas encore raconter, mais des anecdotes, j'en ai pas mal. Oui, je tiens à cela. Alors, tout simplement parce que il y a une réponse à apporter de manière immédiate. Et que dans une situation de stress, il faut avoir un self-control quand même. Donc, j'ai toujours préféré effectivement moi-même l'assurer plutôt que de délocaliser ce service à une plateforme parce qu'il en existe, hein, mais. Et du fait de notre spécificité aussi, hein, liée au sport, oui, j'ai préféré l'assurer moi-même.
Alors, vous parliez du secteur du tourisme, hein, qui est mis à mal ces derniers temps. Est-ce que, à votre avis, vu, j'allais dire, de votre œil de Fun and Fly, il y aurait des choses à faire pour relancer la destination France, pour relancer l'activité
France.
Touristique ?
En France, donc,
ouais,
à vous parler.
Ouais, ouais.
Alors, ben, à l'image de ce que fait Fun and Fly, c'est-à-dire ne pas penser que étrangers, effectivement, déjà introduire dans son catalogue d'offres des destinations en France. C'est vrai que les professionnels ont eu tendance à se dire, et nous les premiers au départ, hein, que la France était facile d'accès pour la clientèle francophone, donc pas forcément besoin de professionnels jugés intermédiaires, etc. Et puis, l'expérience de la programmation de Gruissant a été assez révélatrice, à savoir que ben, malgré tout, effectivement, on peut organiser, confier ses vacances à une agence de voyage pour partir en France. Parce qu'encore une fois, à partir du moment où vous avez un panel d'offres en France, vous avez un conseil à apporter. Pourquoi choisir Gruissant par rapport à l'Almanar, ou pourquoi aller à l'Almanar plutôt qu'en Corse. Donc c'est vrai que je ne sais pas s'il y a beaucoup de professionnels qui font ce pari. Nous, on a en tout cas la vocation de développer une offre en France. On a commencé par Gruissant, mais on est sur des études de projet pour s'implanter également au Barcarès, à l'Almanar. On est toujours en veille sur la région du sud de Bordeaux, la Cano, etc. Mais oui, c'est pertinent.
Ça fait partie des pistes, ouais, tout à fait. Jean-Marie, une autre question.
Oui, vos clients, finalement, ce sont des personnes qui reviennent ou est-ce que c'est quelque chose qui est très fluctuant
J'ai de la chance, je touche du bois, d'avoir une clientèle fidèle depuis pas mal d'années.
Une grande fidélité.
Oui, oui. Je l'évalue à peu près 30% de notre portefeuille de clients et c'est des gens qui voyagent parfois 2 à 3 fois par an par nos services. Donc c'est effectivement des vrais passionnés. Et pour compléter mes propos, souvent on est perçu comme, parce que sport de glisse, activité fun, les gens pensent que ce sont des, enfin, qu'on fait voyager des jeunes, petit budget, etc. Et en fait c'est tout le contraire. Notre clientèle, elle a entre 35 et 65 ans. C'est plutôt des CSP+, qui voyagent avec femmes et enfants, donc en général de gros budgets. Et ça c'est lié à la pratique en elle-même et au sport et au matériel qui est assez coûteux. Oui, c'est pas un sport accessible. Enfin, ce ne sont pas malheureusement des sports accessibles à tous.
Alors justement, parlons des sports. Quels sont ceux qui émergent ? On a parlé tout à l'heure du paddle. Il y a pas mal de choses à faire autour du paddle.
Ouais.
Et ça semble être accessible à tous. Que l'on soit initié, sportif ou pas.
Oui, et c'est bien pour ça que je le regarde avec ce support, avec un vrai œil. j'y attache en ce moment beaucoup d'importance, hein, parce que pour moi c'est une vraie opportunité de développement, ouais. Du fait que ça peut toucher un public beaucoup plus large que le public de windsurfer et de kitesurfer. Comme vous dites, c'est effectivement accessible et on est en train de construire toute une offre, déclinée en plusieurs thématiques, utiliser le support du paddle pour découvrir un environnement particulier. On a commencé avec des programmations de week-end dans les calanques de Cassis,
ah ouais.
et on a des retours extraordinaires. Mais dans les cartons, on a également d'autres projets pour décliner ces activités sur l'étranger. Mais avant, je veux justement faire découvrir cette activité sur des week-ends ou des séjours de proximité. Comme on l'a fait en kitesurf dans les années 2000, on avait recensé 3-4 prestataires en France. Et ensuite, quand on s'est créé un petit vivier... qui peuvent aussi être nos ambassadeurs. Là, on a commencé à décliner l'offre à l'étranger. Et donc, dans nos cartons aussi, on a quelques programmes paddle. Donc, je parlais de Cassis, qu'on a testé là juste cette année.
Ouais.
Mais on a le bassin d'Arcachon, on a la Corse, les Ambiers. Voilà. Enfin, je peux pas tout dévoiler, mais en tout cas, voilà, on y travaille. Sachant en plus que c'est une activité. Là, je disais qu'on peut l'attaquer sous l'angle découverte d'un territoire naturel.
Uh-huh.
On peut l'attaquer sous l'angle plus sportif avec des partenaires qui organisent des downwind à plusieurs kilomètres des côtes.
Ouais.
Et qui font des descentes, par exemple, Canet-Collioure. Là, c'est avec un véritable engagement sportif. Il y en a qui veulent le découvrir dans des conditions de vagues.
Mm-hmm.
Donc, on a quelques coachs avec lesquels on organise.
Pas facile à tenir sur les vagues, hein, sur une planche.
C'est clair, mais bon, voilà, c'est organisé avec des coachs qui vous apprennent les techniques. Et ensuite, je suis en contact, alors il faut que je la relance, mais avec une jeune femme qui propose du paddle yoga. Aborder aussi le support sous l'angle des contractions.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Donc il y a plein d'ouvertures. Mmh. 2017 sera l'année du paddle.
Tout à fait.
On peut vous joindre facilement, vous nous rappelez votre adresse.
Alors, le site c'est www.fun-end-fly.com et notre ligne ouverte non-stop du lundi au samedi de 8h30 à 18h30, 05 67 31 16 11.
Merci beaucoup Laetitia, vous êtes parfaite. Merci,
merci
d'avoir été notre invitée. Merci à vous Jean-Marie Ferenbach. Si vous souhaitez nous joindre, notez bien cette adresse par mail, entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.